Est-ce une vraie révolution pour les personnes qui souffrent de surpoids ? On vous parle ici de l'Ozempic.
À l'origine, c'est un médicament pour les personnes diabétiques, mais il est aussi prescrit aujourd'hui à des personnes atteintes d'obésité, maladie chronique reconnue par l'OMS. Il permet en effet de perdre du poids. C'est un traitement qui nécessite un suivi médical.
Mais ça demande quand même de se préparer mentalement avant de se lancer là-dedans, parce que c'est vrai que si, bah, a priori, si on aime ça, si on aime manger, si on aime aller au restaurant, si on aime participer à des dîners, bah voilà, on ne le fait plus trop, parce qu'au final on est gêné puisqu'on ne mange rien, on ne profite de rien, on laisse tout. Quand on va au resto, bah, on demande à emporter parce que finalement on n'a pas touché à son plat. Et donc voilà, c'est pas quelque chose de grave, c'est pas difficile, il faut juste être prêt. Je pense que si on ne l'est pas, du coup on peut mal le vivre, très mal le vivre. C'est tentant, en fait on peut vite devenir accro parce que c'est pas la facilité, j'aime pas dire ça, mais quand on reprend un petit peu de poids, on se dit bah c'est pas grave, il y a Ozempic au pire.
Et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'Ozempic est devenu très populaire, pas seulement auprès des personnes atteintes d'obésité, mais bien auprès des personnes qui souhaitent perdre juste 2-3 kilos. Et ça pose évidemment pas mal de questions. Comment limiter l'accès à ce médicament? Faut-il s'en méfier? Comment ce marché pharmaceutique prend-il de l'ampleur? Est-ce une révolution pour mettre fin à l'obésité? On en parle avec nos invités.
Et c'est la question que l'on pose ce soir et que l'on vous pose. On attend vos témoignages, réflexions et questions au 070 66 55 40 et sur WhatsApp.
Allô le monde sur WhatsApp 0471 200 500. 0471 200 500.
Et des invités avec nous, Julie, vous l'avez dit, Jean-Paul Tissène, endocrinologue aux cliniques universitaires de Saint-Luc. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Et Fabrice Delay, journaliste pour Ediv.news, spécialiste des sciences, de la technologie et des start-up et auteur de Ozempic, la révolution de l'obésité. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Ce terme que l'on entend souvent pour parler de l'Ozempic, c'est un médicament miracle. Pourquoi dit-on cela et que fait-il physiologiquement parlant, Fabrice Delay? Jean-Paul Tissène, pardon.
Donc on parle de miracle, peut-être c'est un peu abusif, mais en fait on a pour la première fois un médicament qui a une grande efficacité sur la perte de poids. En moyenne, les patients perdent 15%, ce qui n'avait jamais été observé. Et parallèlement, ce médicament améliore toute une série de comorbidités de l'excès de poids. Je pense au diabète sucré, au risque cardiovasculaire et à toute une série d'autres problèmes liés à l'excès de poids. Donc on peut dire que c'est une révolution dans la mesure où l'ampleur de la perte de poids n'avait jamais été observée précédemment et parallèlement un effet général sur la majorité des comorbidités de l'excès de poids.
Et pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne concrètement, on se fait une petite piqûre par semaine et puis on n'a plus faim, c'est ça?
Alors, pratiquement, c'est une injection chaque semaine. Il faut savoir que le médicament mime une hormone que notre intestin produit. Chaque fois que nous mangeons, notre intestin produit cette hormone qu'on appelle le GLP-1. Le GLP-1 va stimuler le pancréas à produire de l'insuline, d'où l'intérêt dans le diabète sucré de type 2, mais aussi va agir sur notre cerveau pour nous dire « nous venons de manger, il faut arrêter ». Donc le médicament exerce un effet satiétogène. Et donc favorise la perte de poids.
On comprend évidemment tout l'intérêt quand on fait une découverte comme celle-là pour l'industrie pharmaceutique, parce qu'on a là un médicament qui marche, hein, vous l'observez, même s'il y a des effets secondaires, même si ce n'est pas adapté pour tout le monde, on va en parler, mais en tout cas c'est un médicament qui fonctionne. Et du coup, Fabrice Delay, c'est vrai que y a énormément de recherches aujourd'hui pour proposer des molécules, pour avancer, pour faire diminuer aussi le prix de cette molécule analogue du GLP-1.
Absolument. En fait, ce que je raconte dans mon livre, c'est l'histoire de scientifiques que personne ne croyait trop pendant des années et des années, qui ont finalement réussi à convaincre deux entreprises pharmaceutiques qui sont Novo Nordisk au Danemark et Lilly aux États-Unis assez tardivement, parce que ils trouvaient le diabète, c'est intéressant, c'est une vraie maladie, mais l'obésité, est-ce que c'est vraiment une maladie? Est-ce que finalement les gens, faites un effort, retenez-vous un peu et vous verrez, tout va aller bien. Donc même les entreprises pharmaceutiques ont eu du mal à se convaincre, et puis dans la dernière décennie en fait, quand on a vu l'efficacité de ces produits, il y a eu aussi un changement de mentalité autour de l'obésité, où on s'est rendu compte que c'est une maladie extrêmement multifactorielle, mais dans laquelle la volonté n'a pas grand-chose à voir. Ce n'est pas parce que des gens manqueraient de volonté qu'ils deviennent obèses, alors que d'autres serait capable de se retenir de manger, etc. C'est pas une question de volonté, c'est une question d'hormones et de gènes.
Fabrice Delay, on parle même de prix Nobel pour cette recherche de molécules, finalement.
Absolument, je ne serais pas du tout étonné que les chercheurs qui ont découvert la molécule dans les années 80, qui est une molécule qu'on cherchait depuis un siècle, il y a un scientifique belge dont le nom m'échappe à la seconde, mais qui dans les années 30 avait baptisé cette hormone incrétine, ça faisait très longtemps qu'on la cherchait, et en fait en la découvrant dans les années 80, ces chercheurs ont déclenché finalement le phénomène GLP-1, ensuite l'industrie pharmaceutique a compris comment faire une molécule qui soit pratique, qu'on puisse injecter dans des patients, parce que la molécule, c'est une molécule naturelle, ça fonctionne, ce que disait votre invité, c'est une hormone qui imite ce que fait la nature. Donc, c'est pas un médicament qui a trop d'effets secondaires aussi, probablement à cause de ça. Il en a, mais ils sont pas dangereux. Ça fait 20 ans qu'on le pratique pour le diabète. On voit pas vraiment beaucoup de problèmes avec. Parce que justement, il limite la nature. Et c'est une technologie d'information. J'aime bien dire ça. C'est une hormone qui informe le corps de produire de l'insuline, une chose, et de l'autre côté, c'est bon, on n'a plus besoin de manger, etc. Mais qui ne vous empêche pas de manger. Vous mangez. Vous voyez, on a eu des coupe-faim autrefois, etc., qui étaient dangereux parce que.
C'est pas toujours tout à fait ce qu'on a comme. Je vous coupe, mais c'est pas tout à fait ce qu'on a non plus, que toujours comme retour. On a, Monsieur Thyssen, des auditeurs qui nous envoient, en tout cas, qui nous relaient leurs expériences en disant qu'ils ont eu des effets secondaires assez dramatiques en utilisant, en tout cas, ces produits.
Mais je rejoins un peu votre autre invité pour dire que les effets secondaires sont relativement limités. Les effets secondaires graves, j'entends. Beaucoup de patients présentent au début des nausées, parfois des vomissements, mais ces effets secondaires sont très souvent transitoires et exceptionnellement graves. Donc en termes d'effets secondaires fréquents au début, je dirais que c'est peu de choses, finalement. La majorité des patients tolèrent très très bien le médicament.
C'est ça, mais donc si je comprends bien, un médicament très efficace, peu d'effets secondaires et beaucoup de patients qui sont concernés par des problèmes de surpoids, quand on voit encore les derniers chiffres. Ça veut dire que vous avez des centaines de personnes qui sollicitent un rendez-vous dans un cabinet comme le vôtre pour se faire prescrire cette molécule ?
Sûrement, il y a d'abord une forte demande des patients. On voit clairement que la demande pour les médicaments a augmenté par rapport à la chirurgie, qui a plutôt diminué. Et on voit surtout que de nombreuses firmes pharmaceutiques, quelque part, rentrent dans la brèche, et on estime qu'il y a plus d'une centaine de molécules en cours de développement.
Aujourd'hui, on limitait quand même, Jean-Paul Thyssen, la prescription pour les personnes en surpoids, en favorisant, si je ne m'abuse, les personnes qui souffrent de problèmes de diabète. Cette question-là, elle a évolué, en fait, au fil du temps.
Cette question a évolué et va évoluer à partir du 1er juillet. En fait, l'Ozempic a été développé essentiellement pour le diabète sucré de type 2. Et vu le fait que le Wegovy, donc son homologue, la même molécule, mais sous un autre nom, n'arrivait pas sur le marché, le ministre a autorisé les endocrinologues à utiliser l'Ozempic pour le traitement de l'excès de poids chez des non-diabétiques. À partir du 1er juillet, la chose sera très clarifiée par le fait que le Wegovy sera sur le marché. Donc c'est l'Ozempic pour l'excès de poids.
J'aimerais vous relayer cet avis d'un auditeur qui sur Facebook nous dit « Oh, les méchants obèses qui volent les gentils diabétiques, bravo à la presse de continuer à faire circuler la grossophobie ambiante. Rappelons que l'OMS a classé l'obésité en tant que maladie. » C'est vrai que quand on parle de cette question, Jean-Paul Thyssen, on a tendance à faire une différence entre quand on a le diabète, c'est bien, quand on est obèse, c'est moins bien, c'est une question esthétique.
J'apprécie beaucoup ce commentaire parce qu'effectivement, on fait un peu deux poids, deux mesures. On dit le diabète sucré, c'est la faute à pas de chance. Le patient qui a un excès de poids, c'est sa faute. Alors que la majorité des patients diabétiques sont diabétiques à cause de leur excès de poids. Donc effectivement, j'adhère totalement à cette vue de stigmatisation de la grossophobie, effectivement, clairement. Et donc l'Ozempic n'a pas été détourné par les patients en excès de poids, pas du tout. Il a été développé pour l'excès de poids aussi, sous le nom de Wegovy.
Et nous avons une auditrice par téléphone. Bonjour Valérie, vous vivez à Verviers.
Oui, bonjour.
On écoute votre témoignage.
En fait, je tenais à réagir parce que quand j'ai entendu votre appel tout à l'heure, vous parliez de Ozempic. prescrit pour l'obésité de façon abusive. Et moi, ce qui me concerne, c'est un traitement. J'ai eu une chirurgie bariatrique il y a 10 années avec un grand succès. J'ai tenu le cap pendant 8 ans et puis une reprise de poids assez importante est arrivée malgré le sport et une certaine hygiène de vie. Je pense que quand on souffre de problèmes de poids, malheureusement, ils sont récurrents. Et j'ai eu droit au traitement Mounjaro et Saxendra. Donc c'est pas du tout c'est spécifique à l'amaigrissement et pas du tout les médicaments des diabétiques comme il vient d'être dit. C'est spécifique. Ça coûte quand même le mois dernier, ça coûtait 240 € toutes les 4 semaines. Maintenant le traitement est un petit peu diminué pour les dosages minimums. Il est à 175 € par mois, entièrement à charge du patient. Et pour avoir ce genre de prescription, je tiens quand même à préciser qu'il faut voir un endocrinologue et avoir un BMI de plus de 31. Donc ça ne s'adresse pas du tout à une perte de 5 kilos pour l'été. Et ça n'a rien à voir non plus pour moi avec les traitements pris aux diabétiques. C'est vraiment deux choses spécifiques.
Mais c'est vrai que voilà. C'est vrai que c'est important de préciser tout ça, docteur Thyssen, parce que donc il y a l'Ozempic, vous l'avez rappelé, destiné aux diabétiques. Il y a des homologues du GLP-1 qui portent différents noms. Vous avez mentionné le Wegovy. Notre auditrice ici mentionne le Mounjaro, mais donc ce sont les mêmes molécules produites en fait par des industries pharmaceutiques différentes. La différence entre le traitement de l'obésité et le traitement du diabète, c'est aussi que dans le cas du diabète, on est remboursé quand on prend ce traitement. Quand dans le cas de l'obésité, on n'est pas remboursé, même si on est avec un indice de masse corporelle très élevé.
Absolument. Donc dans l'obésité, il y a aucun remboursement en Belgique du tout pour ces médications. Dans le diabète sucré, il faut certaines conditions, mais qui sont souvent réunies. Tout à fait.
Mmh. Pas de remboursement du tout. Ça questionne quand même. Pourquoi est-ce qu'on est remboursé quand on se fait poser un bypass, par exemple, une chirurgie bariatrique, mais quand on a un traitement qui est plus d'ordre préventif ici, peut-être, qu'une chirurgie, là, on n'est pas remboursé. On ne peut pas rembourser, on n'a pas les moyens de rembourser ce médicament.
Mais vous avez raison de soulever la question. L'obésité est peut-être la seule affection à ma connaissance où le traitement chirurgical est remboursé et pas le traitement médical. C'est un peu une exception parmi toutes les affections que je connais.
Parce que c'est très cher. Mais
le problème, c'est le coût et surtout le nombre de patients. Mm-hmm. Et comme la patiente précédente, l'auditrice l'a signalé, on parle d'une maladie chronique. Donc si on imagine 20% de la population, chez nous ça fait 2 millions de patients en excès de poids, BMI, indice de masse corporelle supérieur à 30, un traitement à vie, vous imaginez le coût, notre sécurité sociale ne peut pas supporter ça. Donc je pense que le rôle des sociétés scientifiques va être d'aider nos autorités à identifier les patients qui vont en bénéficier le mieux. Je pense que si la santé publique investit dans ces médicaments pour nos patients, je crois qu'elle exige un retour sur investissement et donc à nous scientifiques d'aider nos autorités pour voir quels patients pourront bénéficier le mieux.
J'aimerais faire réagir Fabrice Delay sur cette enquête que vous avez menée aux Ozempic, la révolution de l'obésité. Vous en parlez aussi de ces enjeux de remboursement, notamment pour les entreprises pharmaceutiques.
Absolument. Pour les entreprises pharmaceutiques, leur rêve, c'est qu'un médicament soit remboursé parce qu'on en vend plus. Là, on s'est trouvé dans une situation où, d'abord, tous les pays ne sont pas au même rythme sur la reconnaissance de ce qu'est l'obésité. Par exemple, en Suisse, où je vis, c'est remboursé, sous condition, et pendant 3 ans, c'est pas pour à vie, mais on estime qu'on peut utiliser ces médicaments pour installer un changement, en quelque sorte, de style de vie chez les patients qui va être durable parce que les patients qui sont obèses, ils ont tout essayé la plupart du temps. Et ils ont essayé des régimes, ils n'ont pas marché. Ce qui renforce encore la stigmatisation et la perte d'estime de toi, etc. Mmh. Là, d'un seul coup, ça marche. Donc, on utilise cette fenêtre où ça marche pour installer d'autres choses, de refaire du sport, de changer un peu son style d'alimentation. On regarde aussi des choses psychologiques. C'est comme ça que c'est compris en Suisse. Donc on ne vous rembourse pas si vous prenez juste le médicament. Le docteur vous fait une ordonnance et puis vous allez prendre le médicament et vous n'êtes pas encadré. Non, il y a un encadrement qui est très complet. Mmh. Et c'est sous cette condition que c'est remboursé.
Et pour revenir sur ce que l'auditrice nous disait tout à l'heure, Monsieur Thyssen, sur le fait que ce soit parfois utilisé pour des gens qui veulent perdre 3-4 kilos parce qu'on sait sexe sur les réseaux sociaux. En effet, hein, on dit, ah voilà, vous voulez faire un petit régime avant l'été, avant d'aller en maillot de bain sur la plage, le Ozempic, c'est super, et des tas de gens, vraisemblablement, peuvent s'en procurer assez facilement, notamment via Internet. Quel est votre regard de médecin sur cette tendance qu'on observe ?
Mais je pense que le point à rappeler, c'est d'abord que c'est un médicament avec des indications, des contre-indications, des effets secondaires, même s'ils sont rares et peu graves, ça reste important. Je pense que pour perdre 2 à 3 kilos, pour moi, c'est un mauvais investissement, parce qu'il y aura très souvent une reprise pondérale par la suite.
Quand on arrête le médicament, on reprend
du poids ? Ça, c'est un énorme problème. Et je dirais qu'un peu comme mon collègue qui vient de parler, malheureusement, même après 2-3 ans de traitement, lorsque les patients arrêtent brutalement, sans encadrement, le risque de reprise est très important. Mmh. Ce qui confirme bien que l'obésité est une maladie chronique et souligne le point important qu'on ne cite pas assez, la nécessité d'une prévention de l'obésité. La prévention rapporterait plus que ne coûterait le traitement.
Oui, c'est d'ailleurs ce que nous dit un auditeur, un Serge. Il dit attendre d'un médicament qu'il pallie à tous les défauts de la société actuelle, ce serait un peu compliqué. Donc il parle de sédentarité et de malbouffe aussi, de promotion de la malbouffe.
Je pense que c'est peut-être pas le défaut de la société. Je pense peut-être que c'est une société qui est un peu inadéquate par rapport à notre génétique. Hein. On pense quelque part que nous héritons tous d'une susceptibilité plus ou moins grande à l'excès de poids et que les circonstances de la vie et l'environnement vont permettre à cette susceptibilité de conduire à l'excès de poids. Donc c'est une maladie assez compliquée et contrairement à ce qu'on pourrait croire, une fois que l'obésité est installée, c'est très très difficile de perdre et surtout de maintenir le poids. Et ça, beaucoup d'études l'ont montré et on pense qu'en fait nous avons toute une série de mécanismes comme un peu un élastique qui nous ramène au poids le plus élevé que nous avons obtenu précédemment. Et ça, c'est probablement l'héritage de l'histoire de l'évolution humaine qui a fait en sorte que nous avons dû faire face à de nombreuses famines et que ceux qui nous ont précédés, quelque part, ont généré des gens qui avaient un équipement génétique favorable pour résister aux famines.
S'il y a une personne en surpoids qui nous écoute là maintenant, Jean-Paul Tissène, qu'est-ce qu'elle doit retenir si elle est tentée d'essayer en fait ce médicament ? On doit retenir qu'à partir du 1er juillet, ce sera plus facile de l'obtenir.
Plus facile de l'obtenir parce qu'il pourra être prescrit par tous les médecins et pas seulement les endocrinologues.
Donc un médecin généraliste pourra prescrire par exemple du Wegovy.
Du Mounjaro, tout à fait.
C'est 175 euros par mois non remboursé.
Oui, l'autre un peu moins, je crois, oui.
Et alors, à qui est-ce que c'est destiné ? Est-ce que tout le monde peut en prendre ? Est-ce qu'un ado, par exemple, en surpoids, peut prendre cette molécule ? Ou est-ce qu'il y a un âge ? Est-ce qu'il faut avoir essayé d'autres traitements d'abord ? Comment est-ce qu'on grade les choses ?
Il faut certainement avoir essayé d'autres traitements d'abord. On va le réserver aux patients qui ont déjà un BMI IMC supérieur à 30, idéalement avec des comorbidités. Et surtout, à mon avis, le plus important, c'est un commitment du patient à changer son alimentation et surtout, à augmenter l'activité physique à long terme. Parce qu'on voit clairement que c'est l'activité physique qui empêche la reprise de poids par la suite. Mmh. Donc voilà, ce n'est pas que prendre des médicaments, c'est un engagement à long terme à changer son comportement alimentaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est extrêmement difficile. Faites l'essai, je l'essaye parfois, c'est extrêmement difficile. Notre comportement alimentaire reflète en fait notre vie, hein.
Et donc, si je comprends bien, à la question qu'on posait, est-ce une révolution ? Vous êtes quand même plutôt tenté de dire oui, c'en
absolument,
est une.
Absolument, oui.
Merci beaucoup Jean-Paul Tissène. Merci beaucoup aussi Fabrice Delay d'avoir été dans ce Allô le Monde. Et dans un instant, restez avec nous. Qu'est-ce